Véronique Margron, elle est religieuse provinciale de l'ordre des Dominicaines pour la France. Elle est aussi présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. C'est la première dame d'ailleurs nommée à ce poste. Elle est théologienne, spécialiste des questions éthiques. C'est vous dire si je suis honorée de la recevoir. Bonjour Véronique Margron.
Bonjour à vous.
Alors, merci d'être avec nous, merci de nous avoir accordé ce temps précieux que vous avez. Quelle espérance face à l'épreuve? C'est le thème de votre intervention de mercredi 3 juillet, ça sera de 15h à 18h. Je vous propose de le mettre en perspective, ce thème, avec celui de votre livre. Il est paru fin mars chez Albin Michel, il est intitulé « Un moment de vérité ». Il concerne la crise que traverse l'Église en ce moment. C'est un livre sans concession dans lequel vous ne vous limitez pas, Véronique Margron, à faire un inventaire des dysfonctionnements, mais vous proposez des pistes de solutions pour espérer un renouveau. Nous y reviendrons dans un deuxième temps. Véronique Margron, vous êtes souvent, par vos multiples fonctions, vous avez eu l'occasion d'être lanceuse d'alerte à propos de cette vérité qui doit éclater. Est-ce que vous pensez que nous sommes au bout des révélations?
Malheureusement non, parce que pour être au bout, il faudrait avoir fait une étude extrêmement profonde de l'ensemble de ces crimes et de ces scandales pour pouvoir dire que nous sommes au bout, et il faudrait que nous ayons pu faire les réformes indispensables pour qu'ils ne se reproduisent pas. Donc non, il n'y a malheureusement pas de raison de penser que nous sommes au bout, et donc la vigilance et l'attention et voilà, l'opiniâtreté au contraire s'impose pour continuer.
À force d'avoir peur de faire des vagues, on finit par laisser échapper la vérité. Cette phrase, on la trouve dans votre livre, c'est une phrase du père de Charentenay. Véronique Margron, la vérité, donc ce besoin de vérité, cette quête de vérité, elle est au cœur de votre livre. Face au mensonge, est-ce que c'est le mensonge, le silence, le cancer de l'Église qui a mené l'Église là où elle se trouve aujourd'hui?
En tout cas, cela fait redouble son drame. Autrement dit, le crime, c'est d'abord évidemment le crime des agresseurs, qu'il s'agisse des agressions sexuelles ou des phénomènes d'emprise, ou d'abus spirituels, comme le dit le pape François. Mais c'est aussi, bien évidemment, et on l'entend ô combien dans la colère des personnes victimes, le fait que pendant tant et tant de décennies, l'Église ait d'une manière ou d'une autre caché tout cela, les dénié, et parfois même se soit rendue complice de tels méfaits, en sachant ce qui s'est passé et en faisant en sorte, comme nous le savons bien, de déplacer tel ou tel prêtre ou religieux, voilà, tout ce que nous connaissons que trop désormais.
Mécanisme de l'omerta, dites-vous, c'est quelque chose organisé, volontaire, diriez-vous que c'est volontaire?
C'est toujours difficile à dire, mais dans certains endroits, oui, c'était volontaire. Alors, je pense pas que c'était volontaire par perversion, c'est pas la question, mais volontaire, je pense, par une forme d'inconscience coupable, cette inconscience-là est coupable, de ne pas considérer la gravité des faits, et en particulier la gravité des conséquences pour toute leur vie sur les personnes victimes. Donc, si c'est une inconscience, elle est profondément coupable.
Dont on a pu, nous aussi, d'ailleurs, journalistes, et on en prend notre part, se rendre responsable. Souvent, on a se dire, on va pas taper, on va pas en rajouter sur l'Église.
Oui, tout le monde, tout le monde, pas évidemment de la même manière, ni à la même échelle, ni avec les mêmes responsabilités, mais on sent bien que c'est aussi tout un milieu, tout un air vicié. Il suffit de se souvenir du film Grâce à Dieu voir comment le milieu proche, le milieu familial, le milieu ecclésial, de la communauté catholique elle-même, était quand même très très loin de pouvoir entendre la parole des victimes. Mais ceci ne peut pas minimiser la responsabilité
première
des uns et des autres, et en particulier celle des responsables, quels qu'ils soient.
Un moment de vérité, c'est le titre de votre livre. La vérité, selon vous aussi, Véronique Margron, elle est dans le choix des mots, de la nécessité de nommer nos mots, M-A-U-X, cette fois. Et le premier d'entre eux, c'est celui qui concerne le crime dont il est question, c'est la pédophilie. C'est pas le bon mot, selon vous,
C'est-à-dire, ce mot a une acception psychiatrique, qu'il faut respecter, mais vous et moi, et l'immense majorité, je pense, de vos auditeurs ne sont pas psychiatres. Donc c'est vrai que dans le langage courant, ce terme est détestable, puisque étymologiquement, si on le traduisait correctement, du grec, cela voudrait dire l'amitié des enfants. Donc évidemment que nous essayons, j'imagine que nous sommes, avec grand bonheur d'ailleurs, tous des amis des enfants.
Oui.
Donc, et par définition, des amis, voilà, des amis veulent du bien et font du bien.
La première justice.
Donc oui, là, c'est un crime.
La première justice à rendre aux victimes est l'utilisation des mots adéquats, hein, dites-vous dans votre livre.
Oui, pour mesurer la force, justement, du mal commis. Parce qu'à force d'utiliser des euphémismes, on minimise la violence de ce qui a été commis. Donc le fait de ne pas parler de crime, le fait de mélanger ça avec quelque chose lié comme à une sorte de... Voilà, il est allé trop loin, mais non, c'est pas qu'il est allé trop loin, c'est qu'il a clairement transgressé un interdit majeur qui est l'inviolabilité du corps d'un enfant.
Il n'est pas question de péché, il est question de crime.
Il est question de crime, alors après, du sein de la tradition catholique, on peut bien évidemment parler de péché, mais il faut d'abord entendre qu'il est question de crime pour ne pas, là aussi, tout niveler. Avec justement d'autres péchés, quoi. C'est bien ça l'enjeu.
Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui, Véronique Margron?
Vous savez, il faut. En tout cas, je suis en colère parce que nous sommes encore loin du chemin, parce que je pense que la prise de conscience, si elle est réelle, est encore loin d'être totale. Mais il ne faut pas confondre ma colère avec. La vraie colère, la douloureuse colère souvent rentrée, qui n'ose pas encore forcément s'exprimer, des personnes victimes, c'est celle-ci la vraie colère.
Alors je pense aussi à votre thème, celui de votre conférence, quelle espérance face à l'épreuve. Est-ce que la colère est une étape aussi, tout de même, pour surmonter l'épreuve? Est-ce qu'on pense à Job qui crie sa colère à Dieu? Est-ce que c'est une étape?
Oui, c'est une étape réelle, et c'est d'autant plus une étape parce que la colère mobilise de l'énergie. Elle est une vraie force, hein, on le sait tous, hein, que tant qu'on est en colère, on est
vivant,
quoi. Oui. On éprouve qu'on est vraiment vivant. Le tout est que, évidemment, cette colère ne se retourne pas contre soi-même. Là, je pense évidemment aux personnes victimes, mais qu'au contraire, elles soient le ressort de l'action, quoi. Et donc, je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il ne s'agit pas tant de dire que nous sommes en colère, ce qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais que celle-ci motive et dirige notre action, en faveur des personnes victimes, de tous ces survivants et survivantes, de leurs proches et plus largement de l'ensemble de la communauté croyante et à vrai dire au nom d'un intérêt général dans nos sociétés qui est la protection et de l'enfance et des personnes en vulnérabilité.
Alors il y a un paradoxe tout de même, Véronique Margron, hein, je rappelle que vous êtes l'invitée de l'université d'été de Castanet-Tolosan et que nous en profitons ce matin pour évoquer et parler de votre livre Un moment de vérité sorti fin mars chez Albin Michel. Il y a un paradoxe à parler de vérité, hein, puisque Jésus, le Christ, qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il y a comme une inadéquation, hein, entre le message de Jésus et les messagers. L'institution a failli, et cette faillite de l'institution crée inévitablement une crise de confiance, avec comme victime collatérale le peuple de Dieu. Comment rétablir cette confiance maintenant ?
Je pense que rétablir la confiance, c'est à vrai dire comme dans toute relation humaine, hein, ce sont des actes qui montrent pour de vrai notre changement. Voilà, que nous changeons, que notre institution, les responsables, quel qu'en soit le titre, que nous sommes les uns et les autres, non seulement nous avons entendu, vu, pris conscience, j'espère, de ce qui s'est passé et peut-être de ce qui se passe encore, et que nous changeons nos mœurs. La confiance ne se rétablira que par la mise à jour de la vérité, c'est-à-dire que s'est-il passé et pourquoi cela s'est-il passé, hein, ce qui a été demandé à la commission indépendante
Sauvée.
Que la COREF et la Conférence des évêques de France ont instituée en novembre dernier. Donc, ce qui est un lourd travail qu'ils font de façon très déterminée, et je pense que c'est fondamental.
Les jeunes de 20 ans aujourd'hui, Véronique Margron, ils ont grandi avec l'idée qu'un prêtre est un pédophile. Comment est-ce qu'on va pouvoir petit à petit leur faire changer cette perception?
Alors, j'ose espérer qu'ils n'ont pas tout à fait cette perception, car ce serait
on l'a dit tout récemment,
tragique. À vrai dire, cette perception ne changera, alors, si elle est tragiquement vraie, que par la vérité. Autrement dit, que quand nous aurons nommé les choses, parce qu'alors, nous pourrons rétablir aussi la justice et la justesse, la justice pour les victimes, mais aussi la justice pour toutes les hommes et les femmes de droiture, et ils sont évidemment innombrables dans l'Église et parmi les prêtres, de pouvoir rendre compte que voilà, si ceux-là ont fauté, plus que ça, ont commis des délits graves, autrement dit, bien tous les autres ont essayé de vivre avec justesse et en vérité et avec droiture leur engagement, quoi. Mais pour que tout le monde ne soit pas mis dans le même sac, si j'ose dire, cela impose de faire la vérité. Sinon, tragiquement, le soupçon est ce poison qui se répand sur tous.
Alors, dans votre livre, Un moment de vérité, vous parlez des 12 travaux de l'Église, et 12 travaux en référence évidemment à ceux d'Hercule, et il faudrait être Hercule aussi. Vous dites que l'Église doit les prendre tous en même temps, ces travaux. Il y en a un sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde. Vous dites qu'il faut changer le style de l'Église, redevenir des serviteurs de l'humain, plutôt que d'être ces fameux experts en humanité dont parlait Paul VI.
Oui, c'est bien un enjeu. Je crois que profondément, il est une foule de catholiques, de responsables, de religieux, de prêtres, d'évêques qui sont dans cette ligne. Et pourtant, du service, et voilà, d'être vraiment dans un style modeste, attentif. Et pourtant, nous gardons une image d'une église hautaine. C'est donc bien qu'il y a encore des sortes de réflexes qui sont de ce côté-là, et je pense que ceci participe aussi au rejet d'un certain nombre de gens, ou à cette crise de confiance, de penser que nous détiendrions la vérité, alors que, puisque la vérité c'est le Christ, eh bien, elle se cherche, et elle doit se chercher toujours avec d'autres, dans la conversation, dans le débat, dans l'échange des idées, dans la construction ensemble.
C'est le fameux cléricalisme dont parle le pape François.
En partie, oui, de se croire au-dessus, de penser que nous détenons les choses et que si les autres ne pensent pas comme nous, ben, ma foi, ils ont le droit, mais en quelque sorte, ils ont tort. Donc, nous avons là un vrai travail encore à faire, et pourtant, Dieu sait que le Concile l'a engagé. Donc voilà, il faut le continuer parce que cette crise est aussi révélatrice de comportements, là je ne parle pas de ceux des agresseurs, hein, mais de l'Église, sans doute par trop solitaires, qui se sont encore, comme pour défendre l'institution, barricadés, plutôt que d'aller chercher du secours dehors, que ce soit d'abord la justice, que ce soit après des compétences nécessaires. Nous faut aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, coopérer avec tous. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour sortir de ce scandale et de ce drame. Et voilà, et c'est pour moi cela aussi, participer à changer ce style.
Merci beaucoup Véronique Margron pour cet échange très riche sur votre livre Un moment de vérité. C'est paru aux éditions Albin Michel. Quelle espérance face à l'épreuve? C'est le thème de votre conférence mercredi 3 juillet à 15h. Les auditeurs pourront la suivre. Elle sera rediffusée, enregistrée puis diffusée sur Radio Présence. L'université d'été de Castanet-Tolosan sont libres et sans inscription. Elles ont lieu du 3 au 5 juillet. Et votre livre, je redonne donc Un moment de vérité, Albin Michel, paru fin mars. Merci à vous.